Lors de mon dernier cours, on a évoqué le retour du peuple d'Israël en face de Jérusalem, pas dans la ville, l'endroit du temple, c'est-à-dire Jérusalem elle-même, antique et encore sous occupation de Shrem Ben Hamor, la population autochtone du pays, le monde arabe en l'occurrence, jusqu'à quand? Ishmaël, un grand empire, une grande royauté dont la Torah parle. Ishmaël était béni par Dieu, il sera nombreux. Mais il a une fin, comme toute royauté, elle a une fin. Quand? Alors voyons la Torah. Que nous dit la Torah à propos d'Ishmaël? Bon, il a vécu, il a été béni par Dieu, mais un beau jour, il va décéder. La Torah nous relate son décès. Le nombre des années de la vie d'Ishmaël fut de 137 ans. Il défaillit, mourut et rejoignit ses pères. Ses peuplades habitaient depuis Havila jusqu'à Chour, en face de l'Égypte, jusque vers Achour. Il s'étendit ainsi à la face de tous ses frères. Donc Ishmaël va vivre 137 ans et on nous dit, la Torah nous dit que ces peuplades vont s'étendre ainsi à la face de tous ses frères. Le terme utilisé par la Torah pour dire s'étendre, il s'étendit, est naphal. Comme explique Rashi, naphal s'étendit. Mais en fait, nous savons très bien qu'en hébreu, le mot naphal peut signifier aussi autre chose, tomber. Là aussi, nous aurons le sens simple, s'étendre. Les peuplades, donc descendantes d'Ishmaël, vont s'étendre en face de leurs frères. Mais on aura aussi le sens allégorique. Ce sens allégorique va être dévoilé il y a déjà 7 siècles par un des plus grands rabbins du Moyen-Âge, le Baal HaTourim, qui nous dit à propos de ce verset, il s'étendit à la face de tous ses frères, et juxtaposé à cela le verset suivant, Ve'elel Toldot Yitzhak, nous venons de finir la paracha de Chaye Sara, il s'étendit en face de tous ses frères, Atnei Kol Echav Nafal, commence une nouvelle sidra, une nouvelle paracha qui commence par les mots, Ve'elel Toldot Yitzhak, voici la descendance, les engendrements de Yitzhak, pour nous enseigner que lorsque tombera Ishmaël à la fin des temps, alors surgira le fils de David qui fait partie de la descendance d'Yitzhak. Donc ici, le Baal HaTourim va utiliser le mot naphal dans son sens allégorique dans le cadre de ce texte, qui signifie tomber. Pas ces peuplades vont s'étendre, mais Ishmaël va tomber. Quand Mashiach vient, c'est-à-dire que Ishmaël tombe et le Mashiach il arrive. C'est pour ça que sont juxtaposés ces deux versets. Le premier qui nous dit Venafal, et il est tombé. Et ensuite, voici la descendance de Yitzhak, c'est-à-dire l'époque messianique. Donc nous apprenons que lorsque Ishmaël va tomber, le Messie va venir. À mon humble avis, je pense que cette chute a déjà été amorcée. D'abord au niveau des dates. Évidemment, quand on fait des calculs, on peut toujours se tromper, mais je pense qu'ici, il y a un petit signe à cela aussi dans la Torah qui peut être intéressant. La Torah nous dit que Ishmaël a vécu 137 ans. Comme on a dit auparavant, Maaseh Avot Siman Habanim, les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Nos ancêtres sont Abraham, Yitzhak et Jacob, et quand on parle d'Ishmaël aussi, Ishmaël, c'est un ancêtre de Ishmaël, donc son histoire est aussi un signe pour sa descendance. Donc si la Torah nous dit que Ishmaël a vécu 137 ans, ça signifie que lui, le personnage qui vivait il y a 3500 ans, a vécu 137 ans, mais sa descendance, sa royauté va durer combien? 137, c'est trop court. Donc, au regard de l'histoire universelle, il faut rajouter un zéro, on va dire 1370 ans. Ce n'est pas forcément cette explication que je pense, mais je pense qu'elle n'est pas fausse. Je ne pense pas qu'ils vont vivre, j'espère du moins, 13 700 ans. Donc, je pense que ça serait bien 1370 ans. Donc, il faudrait découvrir, en fait, quand commence la royauté d'Ishmaël. Ajouter à ce chiffre 1370 ans, on saura quand sera la fin d'Ishmaël. C'est des années que je me pose la question. En 624 de l'ère chrétienne, c'est l'Hégire. 632, la mort de Mohammed. Quelle date prendre? Dernièrement, ça m'a fait tilt. J'ai pensé, bah, c'est très clair, de quoi nous parlons? Nous parlons maintenant d'une royauté. La vraie royauté, c'est quoi? Ce n'est pas avoir beaucoup de territoire, etc. La vraie royauté, c'est avoir en sa possession l'endroit du temple, la demeure de Dieu. Ça, c'est la royauté. Dieu était le roi du monde. Et il régnait dans ce monde à partir du temps de Jérusalem. Lorsque vient une autre royauté et prend cet endroit-là, elle, quelque part, elle devient détenteur d'un royaume, le royaume d'Ishmaël. Alors il faut voir quand est-ce que Ishmaël a-t-il conquis Jérusalem. J'ai vu dernièrement sur Wikipédia, la date est marquée 638 de l'ère chrétienne. Donc normalement, d'après, si mon calcul est vrai, il faut rajouter à 638 1370, on aura la date où Ishmaël est censé finir son job de grand royaume. Alors, je vais faire le calcul. On arrive à la date de 2008. 2008, mais c'est passé, mon cher ami. Et ils sont encore bien là. Donc, le calcul est faux. Nenni. Je vous ai raconté lors du cours précédent, j'ai 55 ans. Je n'ai pas 55 ans pile. J'ai 55 ans et 11 mois et quelques, bientôt 56. Mais quand on pose la question, je ne vais pas dire j'ai 55 ans, 11 mois et 13 jours. C'est ridicule. On dit j'ai 55 ans. Quand la Torah nous dit que Ishmaël est mort à l'âge de 137 ans, elle veut dire qu'il est mort à l'âge de 137 ans, à son jour d'anniversaire? Non, certainement, 137 ans plus quelques mois. En tout cas, on a une marge de entre 137 et 138 moins un jour. Maintenant, ça c'est un an dans l'histoire d'Ishmaël. Si on regarde du point de vue de l'histoire universelle, on a dit que chaque année de Ishmaël correspondait à 10 ans. Donc en fait, ça nous laisse une marge jusqu'à 2018. Quand la Torah nous dit que Ishmaël a vécu 137 ans, ça veut dire 1370 ans avec encore 10 ans possibles, des mois. On ne sait pas quand il est mort, au mois, à la journée près. Donc entre l'an 2008 et l'an 2018, normalement, Ishmaël doit disparaître. Je pense humblement qu'on y est. D'abord, au niveau spirituel. L'islam, une religion qui sert, comme j'ai dit dans le cours précédent, qui sert le même Dieu que nous, mais qui aujourd'hui est en train de partir complètement en vrille. Voici ici un témoignage d'un journaliste palestinien, Sami El Soudi. Depuis l'éclatement de l'antifada des couteaux, je traverse une déprime intellectuelle profonde. Non pas une dépression psychologique, mais une remise en question de ma motivation ainsi que de mes finalités. Je ne chôme pas pour autant, essayant de me trouver au plus près des milieux des poignardeurs pour comprendre ce qui les pousse à agir, des autorités de l'autorité palestinienne pour observer leurs réactions, des sympathisants islamistes connus en Cisjordanie ainsi que des familles des terroristes assassins afin de mesurer les intentions des foules lors des enterrements, ce qui m'aide à me figurer la voie vers laquelle se dirige la cause palestinienne. Une cause pour laquelle j'avais décidé de consacrer mon existence, allant jusqu'à suivre Yasser Arafat au Liban, puis de son exil tunisien, avant de le quitter alors qu'il occupait la Moukata de Ramallah, horrifié par sa pédophilie étalée aux yeux de tous et par ses agissements qui nous conduisaient droit à l'apocalypse plutôt qu'à la paix. Donc Sami El Soudi est un journaliste palestinien qui a fait de la cause palestinienne le but de sa vie. Cette semaine, alors que j'assistais aux obsèques d'un homme qui avait tué une jeune Israélienne, j'ai entendu les partisans hurler qu'il était désormais temps d'utiliser les armes automatiques pour éliminer les Juifs. Je n'ai pas discerné la moindre expression de regret ou d'humanité, la moindre trace d'intelligence ou de désir construit d'édifier l'État de Palestine. Je n'ai vu que bave et rage, que besoin de tuer. En fermant les yeux, j'avais l'impression d'être entouré de morts vivants en train d'avancer, tels qu'on les voit dans les films d'horreur. Ils ne cherchent nullement à remporter un quelconque combat, mais uniquement à tuer des ennemis et à mourir ensuite pour atteindre le ciel et les vierges qui s'y prélassent et les y attendent. Et ils en sont à ce point persuadés qu'ils le crient en cœur à la moindre occasion. Ils ne sont responsables de rien, ils sont irresponsables. La vie des restes n'a aucune valeur à leurs yeux, la mépriser c'est se rapprocher d'Allah, tout est la faute de l'autre et l'autre le plus proche est l'Israélien, donc ils se jettent sur les Israéliens pour les tuer. La situation que je décris en Cisjordanie est la même que celle qui ravage actuellement la presque totalité du monde musulman. Or, face à une violence inouïe qui les effraie, les Occidentaux ont perdu leur repère et partant l'énergie nécessaire à se protéger. Au prétexte d'éviter l'islamophobie et l'amalgame, ils ont abandonné leur sens critique et ne discernent plus le phénomène abominable qui se déroule pourtant sous leurs yeux. C'est donc moi, un arabe, pétri de honte et de repentir, pour sauver l'honneur de quelques-uns qui veut leur proposer un petit récapitulatif. Actuellement, sur l'ensemble du globe, de manière systématique et au nom de l'islam, seuls des musulmans participent à des guerres. Seuls des musulmans tranchent les têtes de leurs adversaires. Seuls des musulmans les brûlent vifs. Seuls des musulmans les noient. Seuls des musulmans pendent leurs détracteurs. Seuls des musulmans procèdent à la pendaison par étouffement, condamnent des gens à la décapitation par le sabre, procèdent à la crucifixion, se précipitent des condamnés depuis le toit des immeubles, condamnent les homosexuels au recours à la lapidation, réalisent la perversion punitive de certaines parties du corps, condamnent des gens à recevoir des centaines de coups de fouet. Je ne vais pas tout lire, j'en prends encore quelques-uns. Seuls des musulmans assassinent des gens assistant à des spectacles. Seuls des musulmans assassinent des juifs, y compris des enfants dans des écoles, des juifs dans des supermarchés cachers, des innocents dans les gares et des stations de métro, des juifs dans des musées, etc. Conclusion. Si j'ai mentionné le moindre crime exclusivement musulman par erreur ou pratiqué le moindre amalgame, je vous invite à le faire savoir à la rédaction et je m'engage à apporter les corrections nécessaires. Si vous assimilez le fait d'établir la liste des crimes exclusivement pratiqués par des musulmans à de l'islamophobie, c'est que vous entendez museler l'expression de la réalité. Ceux qui prétendent qu'une religion dont les membres s'adonnent au genre de crimes figurant sur cette liste et dont la quantité où les perpètrent est une religion de paix devraient être invités à s'expliquer. En ce qui me concerne, je crois que le monde serait largement plus viable et paisible si cette croyance n'existait pas et qu'elle est un fléau pour les êtres humains et les nations dont la mienne. Une tache de barbarie à la surface de la terre, j'ai honte. Évidemment, ce n'est pas tous les musulmans qui sont ainsi, mais il y a certainement ici un mouvement extrêmement puissant musulman qui agit de cette façon. Ça, c'est au niveau spirituel, au niveau géopolitique. Le printemps arabe, il y a quelques années, grâce à Facebook, les Arabes, sous tutelle de tyrans totalitaires, commencent à comprendre qu'ils peuvent arriver à une démocratie. Mais au lieu d'arriver à la démocratie, le printemps s'est transformé en été, puis en automne, puis en hiver rigoureux. C'est la catastrophe totale. L'Égypte, qui était à l'époque de Nasser la dirigeante de la Ligue arabe mondiale, aujourd'hui est un pays pauvre, sans aucune puissance, ni économique, ni militaire. L'Irak, détruit par Bush. La Libye, Kadhafi a été exécuté. Aujourd'hui, la Libye est en proie à des guerres incessantes. Etc., etc. Le printemps arabe est une grande déconfiture. Aujourd'hui, géopolitiquement, le monde arabe est en crise. Preuve en est la crise des migrants. Depuis janvier 2015, 1 150 000 migrants sont arrivés en Europe. Le journal Bild a annoncé dernièrement qu'on leur attribue 200 000 crimes rien qu'en Allemagne. Une crise terrible. Le pire de nos ennemis, de tout temps, a été la Syrie. Elle ne voulait pas la paix, elle torturait nos soldats, menaçait d'empoisonner les sources d'eau qui amenaient de l'eau en terre d'Israël. C'est eux qui sous-tendaient le Hezbollah, qui nous envoyaient des missiles. Intraitable. Et là aussi, the last but not the least, un pays complètement détruit. Non seulement détruite, mais la Syrie est aujourd'hui un foyer de conflits internationaux qui peut amener une guerre mondiale. Voici ici une liste qui nous montre les forces qui sont en opposition en Syrie. Comme vous voyez, c'est une simplicité extraordinaire. Ça, c'est seulement les forces qu'il y a en Syrie. Maintenant, dans le monde, il y a beaucoup d'autres forces qui sont intéressées, qui sont influentes aussi en Syrie. Voici un diagramme des relations géopolitiques dans le Moyen-Orient. Une simplicité extraordinaire. Petite note à droite en bas. La Palestine et Israël n'ont pas été pris en considération par souci de simplicité. Chose intéressante, il est écrit dans le Midrash Rabbi Shimon Bar Yochai. Voici le signe annonciateur de la Géoula, lorsque tombera le César Néron oriental se trouvant à Damas. César Néron, un tyran, pas la version romaine, la version orientale, qui se trouve à Damas. Est-ce peut-être Bachar el-Assad, qui était vraiment un grand tyran et qui est en train de tomber, c'est clair. J'espère que c'est bien lui. Chose intéressante, la valeur numérique de Néron oriental, Néron Amizrahi, est 567 avec les Kolelim, alors que celle de Bachar el-Assad est la même, 567. Peut-être c'est un signe de la fin. Comment cette fin doit-elle se dérouler? Nous ne savons pas exactement, mais le Hafez Chaim, qui était le plus grand rabbin du peuple juif, qui est décédé en 1933, a dit, après la Première Guerre mondiale, qu'il y a une Première Guerre mondiale qui était terrible, mais après laquelle il y aura une Deuxième Guerre, par rapport à laquelle la Première n'aura été qu'un jeu d'enfant. Et il a annoncé, hélas, qu'après la Deuxième, il y aura encore une Troisième Guerre mondiale, par rapport à laquelle la Deuxième n'aura été qu'un jeu d'enfant. Les rabbins qui ont témoigné ces paroles du Hafez Chaim ont dit qu'il s'agit d'une guerre spirituelle entre le mal et le bien. Certes, C'est vrai, nous vivons une guerre de ce type. Mais à mon avis, si le Rav il a dit, première, c'était une guerre physique, deuxième, physique aussi, il n'y a aucune raison que la troisième ne soit pas une guerre physique, elle aussi. Donc il semblerait que nous attend une troisième guerre mondiale. Les textes en témoignent. Daniel, dans le livre de Daniel, Daniel est un prophète juif qui a été emprisonné par un roi extrêmement cruel, un grand tyran, Nabucodonosor, ce roi qui a détruit le temple de Jérusalem, le roi de Babylonie. Mais il voulait avoir à sa cour des sages de toutes les nations qu'il avait conquis. Donc il a déporté Daniel et ses trois amis, qui étaient des grands sages d'Israël aussi, Michel, Hanan et Azaria, et les a emprisonnés dans son palais et les a amenés à sa cour pour faire partie des conseillers du roi. Dans chapitre 2 de Daniel, elle raconte l'histoire suivante. Le roi Nabucodonosor fait un rêve. Le matin, il se réveille bouleversé par ce rêve. Il convie tous ses astrologues, tous ses magiciens. Daniel et ses amis étaient absents. Il leur dit, écoutez, j'ai fait un rêve. Je sens que c'est un rêve extrêmement important, un rêve prémonitoire. J'aimerais connaître le sens de ce rêve. Les magiciens disent, pas de problème, Sa Majesté. Expliquez-nous le rêve et on va vous l'interpréter. Le roi dit, non, trop simple, on peut l'interpréter un peu comme on veut. Si vous êtes vraiment des magiciens, des astrologues, des grands interpréteurs de rêves, vous devez être capable de deviner ce que je rêvais. Interpréter, c'est facile. Chacun peut interpréter comme il veut un rêve. Comment je saurais que c'est une vraie interprétation? Si vous êtes vraiment des vrais magiciens, j'aimerais que vous me donniez le rêve, que vous me dévoiliez le rêve vous-même. Et quand je verrai que vous êtes capable de me donner le rêve, alors je vous croirai aussi pour l'interprétation. Les magiciens disent, mais c'est impossible, Sa Majesté, aucun roi n'a jamais demandé une chose pareille à sa cour. Écoutez, nous sommes tous un bac 6, un bac 7 en interprétation des rêves. N'ayez crainte, racontez-nous le rêve et soyez certains que vous aurez la vraie interprétation. Le roi a dit, écoutez, n'essayez pas de gagner du temps. Ma résolution est ferme, je vous laisse encore une minute. 58 secondes, 55. Il commence à paniquer, le roi s'énerve et fait un édit terrible qu'on va jeter au bûcher tous les sages de Babylone, y compris Michel Hanan Azaria qui était absent. Le bourreau Arioch va les chercher, leur dit, venez, qu'est-ce qu'il y a? Ben, au bûcher. Mais pourquoi? Et Arioch raconte ce qui s'est passé à Daniel. Daniel demande à Arioch de demander au roi une audience d'urgence, accordée. Daniel vient voir le roi, lui dit, Sa Majesté, laissez-moi 24 heures. Dans 24 heures, je reviens, je vous donne et le rêve et son interprétation. Nabucodonosor regarde Daniel, lui dit, ok, je sais que tu es un homme sérieux, mais attention, si dans 24 heures, je n'ai pas le rêve avec l'interprétation, alors ton sort sera pire que cela. Daniel va rejoindre ses amis. Il leur dit, écoutez, priez le Dieu du ciel pour que nous sachions maintenant quel est le rêve qu'a fait le roi, pour qu'on puisse aussi l'interpréter comme il faut. Il se met à prier, Daniel s'endort, et dans son sommeil, il rêve du rêve de Nabucodonosor et de l'interprétation. Le lendemain matin, il vient voir le rêve, lui dit, Sa Majesté, tu étais sur ton lit, tu avais devant toi tout à coup une statue énorme. La tête était d'or, la poitrine était d'argent, le ventre était d'airain, les jambes, les cuisses étaient de fer, et le bout des pieds était moitié argile, moitié fer. Puis, une petite pierre sortie de la montagne sans intervention d'une main humaine a touché le bout des pieds, et toute la grande statue s'est écroulée. Et la petite pierre a grandi, devenue une pierre énorme qui a rempli le monde entier. Nabucodonosor dit, Daniel, banco, c'est exactement ça mon rêve, je t'écoute maintenant pour l'interprétation. Daniel lui dit, Sa Majesté, Dieu t'a montré ce qu'elle est arrivée dans la suite des temps. Cette statue, en fait, représente toute l'histoire. La tête, c'est ton empire à toi, l'empire babylonien, l'or, le plus haut niveau, parce que c'est toi qui as hérité l'empire de Dieu, Dieu qui régnait de Jérusalem à partir de son temple. C'est toi qui détruis ce temple de Jérusalem, tu as hérité maintenant de cette royauté mondiale. Donc tu as la tête d'or, mais un jour tu disparaîtras, toi et ton empire, tu seras remplacé par un autre empire qui, dans cette statue, est représenté par l'argent. Nous savons effectivement quel est l'empire qui a remplacé l'empire babylonien, c'était l'empire perse. Donc l'or, ça sera Babylone, l'Irak actuel. La poitrine d'argent, ça sera la Perse, donc l'Iran actuel. Puis il y aura un autre empire représenté par le ventre d'airain, ça sera la Grèce. Puis un autre empire représenté par les cuisses, ça sera Rome, en fer. Puis à la fin des temps, il y aura deux empires. Un, le fer, donc le monde occidental, la suite de l'empire romain. Puis un autre comparé à l'argile, qui sera le monde ismaélite, le monde arabe. Puis une petite pierre, c'est le peuple d'Israël. Sans intervention d'une main humaine, pas par la force de la puissance d'une armée ou de la force physique, mais par une force spirituelle, sans intervention d'une main humaine, est écrit dans le texte. Alors le mot Even, ce sont, comme ça explique Rashi dans le livre de Dvarim, Even, c'est la contraction de deux mots, Av, Ben, père, fils. Grâce à quoi le peuple d'Israël a-t-il réussi à traverser toute l'histoire sans armée, qu'à chaque génération on veut nous anéantir, et nous sans armée on a résisté? Grâce à la tradition qu'on a transmise à nos enfants, notre Torah. Le père enseigne la Torah à son fils, qui devient père, qui l'enseigne à son fils, etc. Cette force de puissance spirituelle aura raison de toutes les forces physiques. Ce sera le royaume de Dieu, le royaume du bien. Il n'y aura plus de mal, plus de mensonges, plus de souffrance, rien que le bien vers Hachem très bientôt. Le Malbim, un des plus grands commentateurs de la Bible, vivait il y a un siècle et demi environ, va commenter le verset 45 de ce chapitre 2. Tout comme tu as vu que de la montagne s'est détachée une pierre, sans intervention d'aucune main, et qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Donc c'est la fin de l'explication du rêve, que le monde physique, de la puissance physique des nations va disparaître et va être remplacé par la puissance spirituelle. Le Malbim pose la question suivante. Pourquoi est-ce que dans ce verset, l'ordre de haut en bas ou de bas en haut a été changé? Normalement, on aurait dû avoir soit or, argent, airain, fer, argile, ou de bas en haut, argile, fer, airain, argent, or. Or, dans le verset, il est écrit fer, airain. Donc on commence par les cuisses, le fer, puis on monte au ventre, l'airain, puis on redescend tout en bas, l'argile, et enfin on arrive, l'argent et l'or, la poitrine et la tête. C'est bizarre! Daniel est un homme sérieux. S'il écrit ainsi et change l'ordre, il peut nous dire quelque chose. C'est le Malbim qui va nous dévoiler exactement de quoi il s'agit. En fait, on dit le Malbim, Daniel veut nous montrer comment aura lieu cette destruction des puissances stratégiques, physiques du monde. Il y aura deux pôles. D'une part, le fer et les reins. D'autre part, l'argile, l'argent et l'or. Le fer et les reins, on a vu auparavant. Qu'est-ce que c'était? Le fer, c'est Rome. Les reins, c'est Grèce. En fait, c'est la culture gréco-latine, le monde occidental. Et l'argile, c'est le monde arabe, Ismaël. Mais précisément, quel pays dans ce monde arabe? Deux pays, l'argent et l'or. Babylone antique et la Perse antique, c'est-à-dire modernement, l'Irak et l'Iran. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes témoins d'une guerre, c'est un début de guerre déjà, d'un conflit extrêmement puissant entre d'une part le monde occidental et l'Irak, le Daesh, l'Iran actuellement, on est sympathique l'un avec l'autre, mais on sait très bien qu'ils ont des centaines, voire des milliers de cellules terroristes dans le monde. Ces deux puissances-là qui menacent le monde occidental. Le Daesh, l'État islamique, une chose tout à fait nouvelle, on n'a pas entendu parler il y a quelques années. Manuel Valls nous annonce à propos du Daesh, il y aura d'autres attentats d'ampleur en Europe, c'est une certitude. C'est une certitude qu'il y aura d'autres attentats d'ampleur en Europe, a affirmé le samedi le Premier ministre français Manuel Valls lors de la conférence sur la sécurité de Munich en Allemagne, en estimant que le monde était entré dans une époque d'hyperterrorisme. Nous devons cette vérité à nos peuples. Il y aura d'autres attaques, des attaques d'ampleur, c'est une certitude. Cet hyperterrorisme est là pour durer, même si nous devons le combattre avec la plus grande détermination, a dit Manuel Valls. Nous sommes submergés. Un responsable de la lutte antiterroriste s'alarme de la vague d'attentats en Europe. Malgré les efforts des services de sécurité, ce responsable s'inquiète du risque d'être submergé. En France, mais aussi en Europe, il y a du souci à se faire, renchérit-il. Nous allons subir une vague de terrorisme très puissante qu'on ne pourra enrayer que partiellement. On attrapera certaines équipes, il n'y a jamais eu autant d'arrestations, mais on ne pourra pas les avoir tous, c'est impossible, nous sommes submergés. Non seulement, jusqu'à aujourd'hui, on a eu les attaques avec les armes conventionnelles, explosifs, mitraillettes, etc. Mais le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique annonce que les États membres doivent manifester un intérêt accru à renforcer la sécurité nucléaire. Illustration de ces risques, des centrales nucléaires françaises ont été survolées à plusieurs reprises par des drones non identifiés ces derniers mois, le dernier incident remontant à mercredi. Il y a quelques semaines, Sarkozy a été invité à Abu Dhabi pour parler de la situation. Elle explique aux Arabes que dorénavant, il y a une guerre entre eux et nous. Eux, ils parlent du Daesh, les terroristes. Nous, quand il dit « nous », il va dire « vous et nous ». « Vous », c'est vous, le monde arabe, l'Arabie saoudite, et nous, l'Union européenne.
Il ne peut pas y avoir de compromis entre eux et nous. Dans le « nous », vous et nous. C'est une guerre. sans doute la troisième guerre mondiale.
Donc l'annonce, c'est sans doute la troisième guerre mondiale. J'ignore comment elle va se dérouler. Il y a des prophéties qui sont très dures, 2/3 du monde va disparaître, mais tout à fait possible que ça ne passe pas du tout ainsi. De qui ça dépend beaucoup de nous à Israël. On a vu la pierre, Eve, Av, Ben. La force n'est pas une force physique, une force spirituelle. Dieu montre au prophète Zacharie une menorah, un candélabre. Parlons de la fin des temps. Il parle du Mashiach qui va bientôt se dévoiler. Et il dit au prophète, sais-tu ce que signifie cette menorah, ce candélabre? Le prophète dit non. Il dit, sache, ce ne sera pas par la force, mais par mon esprit. Le peuple d'Israël doit agir maintenant, faire tshuva, se repentir. Nous sommes peut-être au bord d'événements grandioses. J'espère que tout va se passer pour le bien, mais nous devons agir. L'Avraham Kanievski, le plus grand rabbin d'Israël, a dit qu'il faut beaucoup se renforcer en études de Torah, spécialement pour les hommes. En entraide, les femmes doivent être en tzniout, faire des efforts pour être beaucoup plus pudiques. Aujourd'hui, le monde de la débauche sexuelle, le monde du mal a conquis le monde. Am Israël doit se battre contre cette force négative. On espère ainsi que si on fait une tshuva, chacun de nous doit voir où il se trouve. On ne va pas nous juger parce qu'on n'a pas été le grand tzaddik du peuple d'Israël. On va nous juger au point où nous sommes nous. Chacun de nous, il se trouve toujours un petit choix, un peu plus, un peu moins. Pour un, c'est quitter sa copine, juive ou non juive. Un autre, c'est commencer à être chômeur neguia. Un autre, c'est manger un peu plus cachère. Un autre, c'est commencer à faire Shabbat. Un autre, c'est plus d'heures de Torah. Un autre, c'est regarder ce qu'il faut dans la rue et pas ce qu'il ne faut pas dans la rue. Pour les femmes, quelques centimètres, un peu plus fermé ici. La Nida, très important, le Mikvé, une des bases du peuple juif. Chacun doit se renforcer tout azimut. Spécialement les hommes en Torah, les femmes en Tzniout. L'entraide, a dit le Rav Chaim Kanievski, Bezrat Hashem, que par cette spiritualité que nous avons dans le monde, que Dieu amène Mashiach dans le Rachamim, dans la miséricorde, sans effusion de sang. Attendons-nous néanmoins à des choses difficiles, nous devons être prêts. Au pire, Bezrat Hashem, il n'y aura aucune chose pire qui se réalisera. Mais c'est clair que la partie n'est pas gagnée, on doit faire une grande, grande tshuva pour le bien du monde entier. Amen.